Bienvenue à vous pour cette soirée que nous avons intitulée « Karl Rahner et l'avenir de l'Église » et qui se tient à l'occasion de la publication de 3 nouveaux volumes de ses œuvres complètes. Voilà, le volume 10, « L'Église face aux défis de notre temps », le volume 13 qui s'intitule « L'esprit ignatien » et puis un volume sur qui s'intitule « Le deuxième concile du Vatican ». Le volume 13, notamment, des œuvres complètes, celui qui s'intitule « L'esprit ignatien », est l'occasion de souligner l'importance pour Karl Rahner de son enracinement dans la tradition ignatienne. Tradition qui porte en son cœur le souci du discernement, c'est-à-dire d'une attention permanente à l'œuvre de Dieu dans le temps présent, à partir de laquelle le croyant et les communautés chrétiennes vont pouvoir orienter leur action. Avons-nous ici une clé de lecture pour comprendre Karl Rahner? Eh bien, je pense que ce soir, nous devrions avoir au moins des éclaircissements par rapport à cette question. Et puis, ce sera aussi l'occasion de découvrir un Karl Rahner très attentif à la vie de l'Église, à la forme que prend sa mission en fonction du contexte où elle se trouve. Il a évidemment joué un rôle très important au moment du Concile, et le volume 21, qui rassemble les textes qu'il avait écrits et qui ont joué un rôle important au moment du Concile, nous permettront de mesurer sa contribution à la réflexion de cet événement de l'Église, et puis aussi de voir comment lui-même l'a reçu. Voilà. Donc, pour tout cela, 3 intervenants vont nous aider à réfléchir à ces questions. Je vais donc les présenter maintenant, et puis après, ils interviendront successivement. Donc Gilles Routier, qui est théologien québécois, et qui enseigne à l'Université Laval de Québec. Il a beaucoup travaillé sur la réception du Concile Vatican II. Outre sa thèse sur, justement, la réception du Concile, je signale aussi son ouvrage « 50 ans après Vatican II, que reste-t-il à mettre en œuvre ?» qui est publié au CERF, dans la collection Unam Sanctam en 2015, ainsi que Vatican II, herméneutique et réception, qui est un ouvrage de 2006. Et puis, je signale aussi qu'il a publié la préface au volume 10 de ses œuvres complètes de Karl Rahner, donc le volume qui porte sur l'Église face aux défis de notre temps. Son champ premier de recherche est celui de l'ecclésiologie, mais il a travaillé et publié aussi dans bien d'autres domaines, comme celui de la théologie des ministères, de la pastorale, de la mission, de la théologie pratique. Et d'ailleurs, il vient de sortir un livre sur la vie religieuse qui s'intitule « La vie religieuse, regard sur l'avenir ». Voilà. Par ailleurs, on peut dire qu'il est reconnu comme un expert de la situation de l'Église au Canada et de l'avenir du catholicisme dans la belle province, on peut dire ça. Et puis Gilles, tu es un habitué du Centre Sèvres, et c'est chaque fois avec beaucoup de joie que nous te recevons. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette soirée. Dois-je présenter Michel Fédou et Christophe Théobald? Je pense que vous les connaissez bien, tous les deux. Je dis quand même un petit mot. Donc Michel Fédou est membre du comité scientifique de l'édition des œuvres de Karl Rahner. Il a notamment contribué au volume sur l'esprit ignatien qui est présenté ce soir. Il enseigne ici la théologie dogmatique. Il co-dirige le département d'études patristiques, mais il a également des engagements importants dans le dialogue écuménique, notamment vis-à-vis de la tradition luthérienne, puisqu'il est membre de la commission internationale luthéro-catholique. Parmi ses dernières publications, je signale sa trilogie « La voix du Christ », 3 volumes publiés au CERF, dans la collection Cogitatio Fidei, entre 2006 et 2013, qui explore l'élaboration de la christologie chez les pères de l'Église d'Orient et d'Occident et qui en montre la pertinence pour aujourd'hui. Voilà. Et puis, Christophe Théobald est le responsable éditorial de l'édition critique des œuvres de Karl Rahner. Il est également rédacteur en chef des recherches de sciences religieuses. Et parmi ses derniers ouvrages, je signale « Selon l'esprit de sainteté », qui est paru au CERF dans la collection Cogitatio Fidei en 2015. Et puis je pense que vous connaissez aussi ces deux ouvrages sur le Concile Vatican II, publiés au CERF dans la collection Unam Sanctam. Voilà. Et puis, je crois qu'on peut dire que le christianisme comme style, qui a été publié en 2007 au CERF, en Cogitatio Fidei, est devenu un classique. Donc merci beaucoup pour ce travail de publication des œuvres de Rahner, qui nous donne l'occasion de redécouvrir d'une certaine manière et de redire l'actualité aussi de ce théologien. Le Centre Sèvres est une faculté de théologie dans laquelle on sait que Karl Rahner joue un rôle vraiment important. Et donc c'est avec grand plaisir que ce soir, on peut faire cette rencontre. Voilà. Donc je vais laisser d'abord la parole à Gilles Routier. Et puis après, Michel Fédou prendra la suite. Et enfin, Christophe terminera. Et puis après, on devra avoir un bon temps d'échange. On termine à 21h30, oui, c'est ça. Hein. Voilà.
Merci Étienne. C'est avec plaisir que je me retrouve dans cette maison, en effet. J'ai vérifié, il n'y a pas de volume à vendre à la fin, donc ce n'est pas une opération de publiciste que nous avons à conduire, mais de présentation de ces volumes. Et la première question qu'on peut se poser, c'est quel, et le mot a été dit par Étienne dans la présentation à la toute fin, quelle est l'actualité de ces ouvrages de Karl Rahner pour ce qui est de celui-ci que j'introduis? Ce sont des textes de l'après-Deuxième Guerre mondiale, pratiquement jusqu'au Concile Vatican II. Et surtout, lorsque il réfléchit à l'Église face aux défis de notre temps, on peut se demander, ce « notre », est-ce que c'est son temps ou notre temps? Et quelle est la pertinence et l'intérêt de cet ouvrage aujourd'hui? Et il y a un sous-titre, « Étude sur l'ecclésiologie et l'existence chrétienne ». J'aurais été tenté, quant à moi, de le sous-titrer autrement, et à partir d'un titre, d'un article qui est inséré là-dedans, mais un titre de Rahner, « Étude sur l'interprétation théologique de la situation du chrétien dans le monde moderne ». Et je pense que ça correspond au projet de cet ouvrage. L'ayant lu, avant de l'introduire, j'étais surpris par la grande actualité thématique. Naturellement, l'Église face aux défis de notre temps, c'est une question qui peut être aussi la nôtre. Une question qui fait écho et d'une grande résonance encore aujourd'hui. Mais on peut partager cette question avec Karl Rahner, mais est-ce que ces réflexions sont d'une utilité pour nous qui cherchons quel est le sens de la situation de l'Église dans le monde dans lequel on vit? En quelque sorte, bien qu'il ait posé cette question voilà 50 ans, je pense que le premier intérêt, c'est que nous pouvons réfléchir avec ou en compagnie de Karl Rahner à cette question, et qu'il nous provoque à réfléchir. Non pas qu'on va prendre tout ce qu'il dit, sa réflexion, et dire c'est ça qu'il nous faut penser, mais il va également nous aider à refaire le même chemin, et il va nous entraîner à faire le travail qu'il a fait. Donc, penser avec Karl Rahner ou en compagnie, ce qui est différent de simplement emprunter sa réflexion. Je pourrais dire que il y a un présupposé derrière tout ça, c'est que la situation présente n'est pas une malédiction, et je vais y revenir. La situation du monde dans lequel s'inscrit l'Église et dans laquelle nous avons à vivre la condition chrétienne, n'est pas une malédiction. Et je pense que c'est fondamental pour lui. Et non seulement ce n'est pas une malédiction, mais on va voir, il va même dire que c'est une nécessité dans l'ordre de l'histoire du salut, mais il va dire que dans chaque, que nous pouvons tirer parti de chaque situation dans laquelle l'Église se trouve. Et il va dire, toute situation concrète représente dans ses virtualités profondes une porte ouverte sur le christianisme et sur la vie apostolique. Alors, tout au long de cet ouvrage, il va essayer de désigner le moment présent ou le temps présent pour essayer de voir, mais qu'est-ce qui différencie ce temps par rapport à la situation antérieure? Et globalement, en quoi le monde qui va de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à Vatican II est-il différent? Est-il porteur d'une différence suffisamment importante pour dire la condition chrétienne et l'Église dans ce monde-là ne peut plus se penser dans les mêmes termes? Et je pense que nous aurions le même travail à faire. Mais pour l'instant, il dit qu'il y a une nouveauté, et il va la décrire par différentes approches. Et entre autres, je prends quelques citations brèves, il dit que, en même temps, c'est-à-dire simultanément, des groupes séparés les uns des autres par la race, la géographie humaine, la sociologie, l'histoire, eh bien, ces groupes ainsi séparés et qui étaient homogènes et qui partageaient la même vision du monde, maintenant, ces groupes séparés vivent ensemble. Et il n'y a plus d'espace défini, catholique, protestant ou réformé, ou des mondes qu'on dirait bouddhistes. Il n'y a plus de pays où il y a des groupes homogène, et plutôt que cela, il va dire qu'on se retrouve, il va dire qu'il y a des chrétiens partout dans le monde, et partout par rapport au monde, le christianisme est dans une situation de diaspora. Alors, c'est que ces chrétiens ne se retrouvent plus simplement entre eux et avec du semblable, mais qu'au quotidien, dans leur milieu de vie, ils se retrouvent non plus dans un monde chrétien, mais dans un monde ouvert où il y a un pluralisme convictionnel. Et ils sont en situation de diaspora. La nouveauté la plus importante vient du fait que ce pluralisme convictionnel, il y a plus de mondes séparés, c'est-à-dire il n'y a plus les protestants au nord de l'Europe et les Italiens, parce qu'à un moment donné, il va dire, sauf le monde ibérique, mais ça c'était dans les années, un peu avant les années 60, il dit, sauf le monde ibérique, il n'y a plus de monde homogène. Et dans cette situation-là, l'Église n'est plus ce qui s'impose sociologiquement, ce qui porte du dehors, ce qui est donné simplement et tout naturellement comme l'espace de l'existence subsistant en lui-même indépendamment de l'individu et de sa décision. Et là, vous voyez, pour la condition chrétienne, si le chrétien est isolé dans un monde où il y a des gens de toute conviction, il n'est plus porté du dehors par l'Église. C'est non seulement la condition chrétienne à ce moment-là qui devient différente, mais c'est même le rôle de l'Église par rapport aux chrétiens. Et cela, comme je vous disais, n'est pas une malédiction. Il va dire que Dieu nous a appelés à vivre en un temps qui diffère des époques antérieures, et qui diffère par le double fait qu'il y a partout des chrétiens et que les chrétiens vivent de plus en plus dans une situation de diaspora. Et il va dire, tel est notre destin, telle est notre vocation, c'est-à-dire nous sommes appelés par Dieu à vivre cela. Et à quoi cela nous engage-t-il? Et de quoi cela est-il porteur comme conséquence? Je cite encore Ranner, le chrétien d'aujourd'hui est dans une situation de diaspora et celle-ci affecte le cœur même de sa famille la plus proche. Alors vous voyez, parce qu'il y a un texte qui dit « solitaire parmi les siens » et il va dire, le chrétien, ici c'est un converti qui se trouve seul parmi les siens à professer la foi chrétienne. Ailleurs, c'est un catholique qui compte dans sa parenté des mariages mixtes parmi ses frères et sœurs, peut-être, à moins que ce ne soient ses propres parents. Tel autre appartient à une famille d'origine catholique, mais qui a abandonné la pratique régulière et est devenue parfois incroyante, voire carrément hostile au point de quitter ouvertement l'Église. Combien d'entre nous vivent ainsi isolés? Alors, c'est cette condition du chrétien solitaire parmi les siens, du chrétien isolé, ou encore où il n'y a plus de monde homogène. Et il va s'interroger d'abord sur la signification de cela. Est-ce que cela est simplement une décadence, une déperdition de l'idéal? Alors, il va s'interroger sur la signification. Et il va même se poser la question, s'agit-il d'une malédiction contre laquelle il faudrait se révolter, tentant de renverser l'ordre des choses et de vouloir s'employer de toutes ses forces à restaurer la chrétienté? Faut-il rêver d'un retour? Et plutôt que de nous orienter dans cette direction et d'être malheureux dans son monde, Ranner va nous dire, et je l'ai annoncé tout à l'heure, je le cite à nouveau, que c'est une nécessité inhérente à l'histoire du salut. Et là, en regard de l'Écriture et de l'histoire, il va s'interroger sur qu'est-ce que c'est cette idée d'être ou de vivre en diaspora. Et il va reprendre le terme du paroikain des premiers siècles. Alors, pour lui, ce fait de la diaspora n'est pas simplement, donc, une constatation ou une catégorie descriptive, nous sommes dans cette situation, mais il va dire que c'est quelque chose qui a une signification et c'est une donnée non seulement sociologique, mais théologique. Il ne faut pas enregistrer ce fait comme et avec un sentiment d'effroi, l'enregistrer a posteriori, mais c'est une donnée théologique. Ensuite, il va continuer, et un peu à la manière de Paul dans l'Épître aux Romains, qui scrute le dessein de Dieu et qui essaie de comprendre le mystère du Christ rejeté par les Juifs. Alors, qu'est-ce que c'est que, et comment arriver à ce moment-là, à repenser l'Église? Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Et quel est son statut? Quel est son rôle dans cette situation? Comment la comprendre? Et également, la condition chrétienne. Si à l'université où tu es, à l'usine où tu travailles, dans ta famille, tu es dans une situation d'isolement, alors, qu'est-ce que ça engage également comme formation chrétienne? Alors, il va dire que, de même que l'Écriture nous dit qu'il importe ou qu'il est opportun qu'il y ait une hérésie, une parole mystérieuse qui a été souvent commentée, il va se demander quel est le sens de cette opportette également pour l'Église, puisque c'est inhérent à l'histoire du salut. Et en quoi cette situation de l'Église dans un monde pluraliste et cette situation de diaspora, en quoi pouvons-nous la réfléchir théologiquement? Et comment cela peut-il être dans le plan de Dieu? Ensuite, il va essayer de penser les conséquences de cette nouvelle situation. Les conséquences pastorales, les conséquences pour la vie de l'Église et sa manière d'intervenir dans la société, les conséquences également spirituelles et également de la formation des baptisés. Mais prenons toujours comme point de départ que cette situation n'est pas pire ni meilleure que la situation de l'Église au Moyen Âge ou à l'époque baroque. Alors, et là c'est intéressant parce que Ranner ne fonctionne pas en disant il y avait une Église où il y avait une chrétienté, c'était l'âge d'or, et il y a ensuite simplement une déperdition. Il ne réfléchit pas en termes de déchristianisation, mais en termes de changement de situation, changement de monde, qui nous oblige à repenser ces deux termes, la condition de l'Église et la condition chrétienne. Pour l'instant, je vais arrêter là. Il y aura une période d'échange et de débat. On pourra ajouter davantage.
Merci beaucoup, Gilles, de nous avoir fait partager ce travail de lecture du temps présent. Qui était le temps de Ranner, mais qui reste le nôtre aussi. Il me semble qu'on pourrait dire qu'il s'agit aussi d'un travail de lecture des signes des temps, non ? Hein ? Et je retiens notamment cette posture dans la manière de réfléchir qui se refuse à entrer dans une vision très pessimiste ou qui verrait la situation du temps présent comme une malédiction. Et il me semble que c'est là qu'on voit justement qu'on apprend une manière de penser. Comme tu disais au début, ce à quoi on est invité, c'est réfléchir en compagnie de Karl Ranner. Hein. Et je trouve qu'à des choses comme ça, on voit bien une manière de penser. Ouais. Je passe la parole à Michel Fédoux, qui va nous présenter donc surtout le volume sur l'esprit ignatien.
Merci beaucoup et bonsoir à tous. Il nous revient donc de présenter ce volume qui s'intitule « L'esprit ignatien, écrit sur les exercices spirituels et sur la spiritualité du fondateur de l'ordre ». Je ne peux le faire évidemment que de manière très partielle, étant donné la richesse de ce volume, qui rassemble beaucoup de textes ayant trait à la spiritualité ignatienne. J'ajoute d'ailleurs que d'autres textes importants de Ranner sur la spiritualité ignatienne sont publiés dans d'autres volumes, des œuvres complètes. Je pense en particulier au fameux discours d'Ignace de Loyola aux Jésuites d'aujourd'hui, publié dans volume 25. Pour m'en tenir donc à ce volume dont j'ai assuré la préparation, j'indiquerai d'abord qu'il se compose pour l'essentiel de trois ensembles. Tout d'abord, un recueil de prières, de très belles prières, que Karl Ranner composa à la faveur de retraites selon les exercices spirituels. Et c'est aussi un ensemble qui comprend quelques prières rédigées par son frère Hugo. Son frère Hugo, qui est un grand spécialiste, un grand connaisseur des exercices spirituels de Saint Ignace. Ensuite, c'est de loin l'ensemble le plus important, on trouve dans cet ouvrage un recueil de quelques 300 pages intitulé « Considérations sur le livret ignatien des exercices spirituels ». Ce recueil, certes, a un statut tout à fait particulier. Il ne fut pas d'abord composé comme un livre. À l'origine, il s'agissait de méditations que Ranner avait données dans les années 1950 à des retraitants, à Poulard, près de Munich, et à Rome. Et ce sont en fait des auditeurs qui transcrivirent ces méditations de Karl Ranner et qui les mirent en forme. Puis Ranner les reprit, les révisa, et il en fit un livre qui fut publié en 1965. Mais je m'empresse d'ajouter que le statut particulier de ce recueil n'a pas une raison simplement circonstancielle. il s'éclaire plus profondément par une conviction dont Karl Rahner se fait l'écho dans sa préface. Il dit ceci, « Du fait que les exercices spirituels de saint Ignace renvoient d'abord à une expérience, un livre sur les exercices ne saurait dispenser de cette expérience elle-même. Les considérations sur le livret ignatien des exercices ne pouvaient donc pas être conçues d'emblée comme un ouvrage. Elles sont d'abord la mise en forme des méditations suscitées par l'itinéraire spirituel auquel saint Ignace invite les retraitants. Le troisième ensemble du volume, enfin, est constitué par une série de conférences ou d'articles dans lesquels se manifeste, si je puis dire, le déploiement de l'esprit ignatien dans l'expérience spirituelle, en particulier dans la vie religieuse. On y trouve, par exemple, des textes sur les conseils évangéliques, sur la pauvreté dans les ordres religieux, sur le sens de l'obéissance, et on y trouve aussi, ou surtout, un certain nombre de textes sur la dévotion au cœur de Jésus. L'un de ces textes, je le signale, a été traduit de l'allemand magnifiquement par Joseph Hoffmann, qui est ici présent et que je salue à cette occasion très chaleureusement. Si Karl Rahner est le plus souvent connu en France pour son traité fondamental de la foi et aussi pour ses nombreux écrits sur la grâce, la Trinité, le Christ, l'Église ou les sacrements, ce volume 13 des œuvres complètes conduit le lecteur à découvrir une source fondamentale de sa pensée. Rahner l'a lui-même avoué de manière tout à fait explicite. Je le cite, « Ce que je pense, a-t-il dit, c'est que par rapport à la philosophie et à la théologie de l'époque qui m'ont influencé, la spiritualité ignatienne a eu quand même une signification et une importance plus grande. » Je voudrais avant tout recueillir du volume une réflexion fondamentale qui est récurrente sous diverses formes et qui peut aider à saisir en quoi Karl Rahner est essentiellement marqué par l'esprit ignatien et surtout par la pratique de discernement à laquelle invitent les exercices spirituels. J'indiquerai ensuite plus brièvement deux thèmes particuliers de l'ouvrage à travers lesquels se vérifie la portée de cette inspiration ignatienne pour le discernement du chrétien et pour les décisions qu'il est appelé à prendre. La réflexion fondamentale qui parcourt cet ouvrage pourrait s'intituler « Vouloir de Dieu et liberté humaine ». Karl Rahner affirme d'emblée « les exercices spirituels, ne sont pas un système théologique. D'un point de vue théologique, écrit-il, ils ne sont rien d'autre qu'un choix. Le choix des moyens et du chemin concret pour que le christianisme devienne une réalité vivante pour nous. » Comprenons qu'il ne s'agit pas là d'une considération générale. Rahner souligne au contraire que la recherche et le discernement de la volonté divine dans le cadre des exercices spirituels relèvent d'une expérience éminemment personnelle, singulière, unique. La conviction sous-jacente est que Dieu lui-même révèle à chacun ce que lui seul peut lui faire connaître. Ignace, écrit Rahner, est persuadé que Dieu dit à chacun individuellement, par-delà ses réflexions personnelles, « C'est telle et telle chose bien précise que je veux de toi. » Et cela même doit précisément faire l'objet du choix. Et Rahner interprète en ce sens l'élection dont parle Ignace dans les exercices spirituels. Cette élection, écrit Rahner, implique une décision qui ne soit pas simplement ni exclusivement la conclusion logique des principes généraux de la raison et de la foi. Mais Ignace est plutôt convaincu que, normalement, dans une sorte d'inspiration individuelle, Dieu fait connaître sa volonté, laquelle sans doute entre dans le cadre de la révélation commune de l'Église et de la raison, mais dont pourtant la réalité concrète ne peut devenir consciente que grâce à cette motion divine. C'est à cette même expérience que Rahner fera écho plus tard dans le discours d'Ignace aux jésuites d'aujourd'hui. Il fera dire par trois fois au fondateur de la Compagnie de Jésus « J'ai fait l'expérience immédiate de Dieu ». C'est cette même expérience aussi qui conduit Rainer à souligner très souvent dans ce livre et ailleurs que parmi les trois temps d'une saine et bonne élection dans les exercices spirituels, le troisième temps, qui fait davantage appel à la réflexion rationnelle, n'est proposé que comme un moyen subsidiaire pour trouver la volonté de Dieu. Normalement, explique Rainer, la découverte de la volonté divine se reçoit à travers le premier temps, quand Dieu, notre Seigneur, meut et attire la volonté de telle sorte que, sans douter ni pouvoir douter, l'âme fidèle suit ce qui lui est montré, ou bien à travers le deuxième temps, quand on reçoit assez de lumière et de connaissance par l'expérience des consolations et des désolations et par l'expérience du discernement des divers esprits. Une telle compréhension du discernement et de la décision a elle-même deux présupposés qu'il me semble important de mettre au jour. L'un du côté du vouloir divin, l'autre du côté de la liberté humaine. Du côté du vouloir divin, c'est l'idée selon laquelle Dieu a effectivement un dessein pour chacun. Plus radicalement, c'est la conviction que Dieu dispose de sa créature, une expression que Rainer emploie de manière récurrente, comme par exemple dans ce passage, je cite, « Celui qui sait que Dieu a déjà disposé de lui et qu'il a à accueillir et à assumer dans l'obéissance les dispositions sans cesse nouvelles de Dieu, selon qu'elles lui adviennent de manière historique et qui de ce fait ne peut être projetée a priori, celui-là peut en toute vérité laisser venir les choses à lui. Se laisser venir à soi est une attitude essentiellement chrétienne, car, poursuit Rainer, seule la liberté qui, nonobstant son pouvoir de disposer d'elle-même et du projet où elle oriente sa vie, se reconnaît comme créée, c'est-à-dire comme une liberté déjà disposée, seule cette liberté est une liberté chrétienne. Et seule la vie qui se laisse monnayer pièce à pièce par l'imprévisible de cette vie même est véritablement chrétienne. Elle a l'humilité de la créature, elle fait confiance à Dieu et elle confesse qu'un seul connaît la formule adéquate de notre vie et de sa réalité, Dieu, non pas nous. Accepter que Dieu dispose de notre vie, joint à l'acceptation de l'imprévisible historité de cette vie dans l'obéissance, cela, conclut Rainer, appartient à l'essence de la vie chrétienne. Et Rainer souligne volontiers que cette expérience culmine dans la mort. En effet, à ce moment-là, nous ne disposons plus de nous-mêmes en toute liberté, nous ne pouvons que tenir en répétant « En tes mains, je remets mon esprit ». C'est le moment de s'en remettre à la disposition de l'incompréhensible et au point de croire que c'est un amour infini qui dispose ainsi de nous et qui préserve notre existence spirituelle de l'extrême absurdité. Pour Rainer, cette expérience ultime se trouve en quelque sorte anticipée dans le discernement du vouloir divin à chaque étape de la vie, dans la mesure précisément où ce discernement implique que nous consentions à laisser Dieu disposer de nous-mêmes à travers les choix les plus concrets de l'existence. La compréhension rainérienne du discernement et de la décision a un autre présupposé, inséparable du précédent, du côté de la liberté humaine. Rainer écrit en effet « Dieu est celui qui m'établit dans une liberté très mystérieuse, s'occupe de moi, dispose de moi, mais de telle manière que, par le fait justement de ce caractère absolu de Dieu, mon autonomie n'est pas supprimée, au contraire, elle est plus que jamais elle-même. » Cela vaut pour Rainer de tout être humain, dès lors qu'il a fait quelque expérience du mystère de Dieu, se communiquant à lui dans les profondeurs de sa conscience, et dès lors que cet être humain est appelé à se prononcer librement par rapport à ce don originaire, que ce soit pour l'accueillir ou pour y faire obstacle. Mais cela vaut de manière plus explicite pour celui qui, comme Ignace y invite, a entendu l'appel du Christ à l'imiter. Et Rainer développe le sens d'une telle imitation du Christ qui engage toute la liberté du chrétien. Je cite Ranner, « En chacune de mes situations, il me faut sans cesse réinventer la forme concrète, valable pour moi, de cette imitation. De même qu'on peut difficilement déduire une situation historique particulière des lois générales de l'histoire, de même, ma façon d'imiter le Christ se laisse difficilement déduire des lois communes qu'on trouve là aussi. Une telle invention est toujours une décision individuelle, sans procuration. » Simplement, et Ranner le souligne, on ne devra jamais oublier que cette libre décision, loin de s'opposer à la remise de soi à Dieu, lui est unie de la manière la plus intime. D'une part, elle est elle-même réponse à l'appel qui a été entendu, et d'autre part, elle doit être ouverte à l'imprévu, en fonction de ce qui advient de nouveau dans l'histoire, et plus profondément, parce qu'il y va du Dieu toujours plus grand. La réflexion fondamentale que je viens développer sur la base de l'ouvrage se déploie elle-même à travers nombre de thèmes particuliers dans ce volume, l'Esprit ignatien. Et j'en retiendrai pour finir deux de ces thèmes qui peuvent aider à saisir tout spécialement la portée de l'inspiration ignatienne pour le discernement du chrétien et pour les décisions qu'il est appelé à prendre. Premier thème, la caractérisation de ce qui fait, dans son originalité, le discernement ignatien ad majorem Dei gloriam, ou bien, selon une formule prisée par Karl Ranner, pour un honneur de Dieu toujours plus grand. Karl Ranner illustre ce discernement ignatien par une comparaison entre Ignace de Loyola et François d'Assise. D'après la biographie que lui consacra Saint Bonaventure, François d'Assise avait le don des larmes et il pleurait tellement dans ses oraisons qu'un médecin avait fait ce diagnostic « En continuant ainsi, vous risquez de devenir aveugle ». Et François d'Assise aurait répondu « La belle affaire, si je perds des yeux que j'ai en commun avec les mouches ». Or, remarque Karl Ranner, lorsqu'on présenta à Saint Ignace le même diagnostic, Ignace tenta de réfréner le flot de ses larmes mystiques. Ranner poursuit, nous n'avons nul droit de qualifier l'une ou l'autre de ces attitudes de plus chrétienne ou de plus sainte. Par contre, il importe de saisir la différence d'attitude que manifestent les réactions de François et d'Ignace. D'un côté, au moment où Dieu se donne à François à travers le don des larmes, le saint d'Assise, écrit Ranner, ne regarde ni à gauche ni à droite, il met à profit ce présent gracieux de Dieu, cette disposition de Dieu, sans les réfléchir en lui-même, on pourrait dire au sens premier du terme, naïvement. Chez Ignace, on a autre chose. Ici, écrit Ranner, le sujet prend recul. Par un mouvement inconnu jusqu'alors, il prend recul à un second niveau par rapport à toutes ces hautes réalités. Il se retire, comme en arrière du cours concret de son existence, il se place face à elle et s'interroge. De fait, est-ce cela, le don des larmes, qui se signale nettement comme le parti à prendre? Il n'y a rien contre, c'est une bonne chose, mais est-ce pour le plus grand honneur de Dieu? Le cours concret de l'existence est explicitement confronté ici à une norme plus ample, et le sujet s'en dégage évidemment d'autant. Ignace pourrait, et sans doute, aimerait continuer d'accueillir le don des larmes, mais il découvre que, pour un plus grand honneur de Dieu, il est pour lui préférable de ne pas le faire et d'éviter ainsi de perdre la vue. Telle est justement, selon Ranner, l'attitude spécifique de l'élection ignatienne. Cette manière de se retirer jusqu'à un point absolu pour, à partir de là, examiner réflexivement ce qu'il doit faire. Ignace envisage le chrétien comme quelqu'un qui, souverainement, avec la conscience de soi d'un sujet moderne, considère, examine et choisit ce qui sert et qui peut servir au plus grand honneur de Dieu. Le second thème que je retiens et par lequel je terminerai, le second thème à travers lequel se déploie l'esprit ignatien, c'est celui du cœur de Jésus. Le lecteur d'aujourd'hui est peut-être assurément surpris par l'importance que Karl Rahner donne à ce thème. Ce sont, je l'ai dit, une centaine de pages qui lui sont consacrées dans ce volume. Sans doute y a-t-il à cela des raisons pour une part conjoncturelle. La dévotion au Sacré-Cœur, fort développée depuis le XVIIe siècle, avait fait en 1956 l'objet d'une encyclique de Pie XII, Orietis Aquas, et c'est justement de cette période que datent la plupart des écrits de Rahner sur le sujet. Mais l'intérêt de Rahner pour ce sujet remonte loin, si l'on en juge par sa thèse de théologie sur les interprétations patristiques et médiévales de l'épisode joannique sur le sang et l'eau jaillissant du côté du Christ. Nul doute en tout cas que, par-delà les raisons circonstancielles, Rahner ait trouvé dans la dévotion au cœur de Jésus une dévotion de très grande portée. Il s'emploie, certes, à dissiper des malentendus, les fausses représentations à ce sujet, mais, une fois ces malentendus levés, il fait paraître la profondeur d'une expérience qui, pour lui, renvoie de manière centrale à la révélation de Dieu et à la réponse de la liberté humaine. Le mot « cœur » est, à ses yeux, un mot originaire. Pour tout être humain, ce mot désigne le point où l'homme est attenant au mystère de Dieu, le point où l'homme, qui s'origine lui-même en Dieu et qui est son partenaire, soit se rend lui-même à Dieu, soit se refuse à lui. Or, lorsqu'il s'agit du cœur de Jésus, transpercé sur la croix, en même temps que source de vie, l'expression désigne la réalité originaire du mystère de Dieu qui s'offre par amour pour le monde. Dès lors, que le cœur de l'homme se laisse toucher et saisir par le cœur de Jésus, c'est là l'expérience la plus profonde qu'il puisse lui être donné de vivre. C'est dans ce sanctuaire que Dieu se communique immédiatement à sa créature. C'est là que Dieu dispose de cette créature et la meut au plus intime d'elle-même. C'est là que la créature accueille librement la volonté divine et qu'elle trouve l'inspiration fondamentale de ses choix. C'est pourquoi, écrit Rahner, et je cite la belle traduction de Joseph Hoffmann dans l'une des contributions du volume, Rahner écrit « Aussi longtemps que l'homme a un cœur, il devra parler avec ce mot « cœur », justement, c'est-à-dire toujours. Toujours, lorsque, de façon simple et sage à la fois, il se rappelle et se ramène de la multiplicité vers l'origine unique, il parlera du cœur. Toujours, lorsqu'il tombe dans les abîmes obscurs de son existence, il aura le sentiment d'être captif dans les cachots de son cœur mort et vide. Toujours, il chantera avec simplicité « Sors, mon cœur !» et cherche la joie. Toujours, il célébrera la grâce reçue comme l'effusion de l'Esprit-Saint dans son cœur. Toujours, celui qui est outragé se consolera dans la certitude de ce que Dieu voit son cœur. Toujours, on espérera que l'étoile du matin se lèvera enfin dans le cœur. Toujours, on dira bienheureux ceux qui ont le cœur pur. Toujours, on fera l'expérience épouvantable de ce que le mal surgit de l'abîme du cœur. Et on sera heureux de pouvoir conserver dans le cœur ce qui est bon. Toujours, on aimera ceux qui pardonnent du fond du cœur. Et toujours, on sera jugé selon qu'on aura aimé de tout son cœur, parce que sur la balance de Dieu, seuls les cœurs sont pesés. Certes, pour Karl Rahner, le discernement et les décisions du chrétien ne doivent pas être seulement à l'œuvre dans l'existence personnelle, ou plus exactement, cette existence du chrétien doit être elle-même marquée par des choix dans la société et dans l'Église. Les deux autres volumes qui sont présentés ce soir témoignent précisément de la manière dont ce discernement doit opérer au plan ecclésial. Mais ce que j'ai tenté de dire à propos du volume « L'esprit ignatien » aura fait sentir, j'espère, l'enracinement inséparablement théologique, spirituel, mystique de la pensée rahnérienne. Il ne faudrait d'ailleurs pas croire que l'expérience dont il s'agit est réservée à ceux et celles qui ont pu bénéficier directement de l'itinéraire proposé dans les exercices spirituels de Saint Ignace. Rahner écrit bien plus tôt, je cite, presque tout homme, dans les décisions importantes, fait son choix de manière plus ou moins explicite comme Ignace le pense, exactement comme l'homme ordinaire applique la logique même s'il ne l'a jamais étudiée. Aussi se décidera-t-il sans doute toujours à la suite d'une expérience fondamentale de lui-même et en fonction du sentiment qu'il éprouve que l'objet de son choix convient ou non à ce sentiment profond qu'il a de lui-même. Il ne se décidera pas seulement, ni en dernier lieu, à la suite d'une analyse rationnelle, mais en vertu du sentiment qu'il a que ça lui va ou non. Et ce sentiment se mesure à la joie, au contentement intérieur que procure la chose. Une excellente caractéristique de cet état se trouve exprimée par le mot de paix, de cette paix qu'on trouve après s'être décidé. Eh bien, si l'on en croit Ranner, et nous devons l'en croire, chacun de nous peut donc, jusque dans l'ordinaire des jours, connaître quelque chose de cette expérience fondamentale du discernement et de la décision selon l'esprit ignatien. Mais le volume que j'ai présenté aide justement à en prendre conscience. Ce beau livre, ce très beau livre sur la spiritualité ignatienne est lui-même le livre d'un grand spirituel. Et je ne peux mieux terminer qu'en souhaitant non seulement que beaucoup de lecteurs en prennent connaissance, mais surtout que, à travers ces pages, ils se laissent saisir par le mystère du Dieu toujours plus grand et de la créature qui est appelée à l'aimer pour une plus grande gloire.
Merci beaucoup, Michel, pour cet exposé qui nous fait peut-être découvrir un aspect du visage de Ranner, peut-être qui nous est moins familier. Merci beaucoup notamment d'avoir lu aussi ce très beau texte sur le cœur. Ça nous fait goûter un peu quelque chose de la réflexion de Ranner. Je retiens aussi le point que tu as fait sur le discernement, comme quelque chose qui se joue au lieu même, on pourrait dire, de la genèse de la liberté du sujet, et qui est en même temps l'occasion d'une remise de soi. Hein. Et le tout, et c'est là que tu insistais sur le très spécifiquement ignatien, le tout qui est placé dans un champ plus large, sous-tendu par le souci d'un plus grand honneur de Dieu. Voilà. Et c'est sans doute à partir de là qu'on pourra aussi penser le discernement dans la vie de l'Église. Hein. Voilà. Je passe la parole maintenant à Christophe.
Il me revient donc de présenter ce soir le troisième volume, celui sur le deuxième concile du Vatican II, qui porte le titre « Le deuxième concile du Vatican, contribution au concile et à son interprétation ». Et je commence moi aussi à rendre hommage à Joseph Hoffmann, sans lequel ce livre n'aurait jamais vu le jour, parce qu'il a quasiment traduit l'ensemble, parce que peu de choses qui se trouvent dans ce volume a été déjà traduit. Alors, le volume, pour le présenter d'abord très brièvement, est composé de six ensembles. Vous avez donc une première partie. Ranner nous accompagne dans ce volume de la période très conciliaire, depuis l'annonce le 25 janvier 1959 jusqu'à la clôture du concile et même vers la période post-conciliaire. Premier ensemble, ce sont donc deux grandes conférences qu'il a données tout à fait avant le concile. Tout le monde était en attente, il y avait des attentes démesurées et Ranner paraît ici comme un grand sceptique d'abord, c'est-à-dire qu'il tente un peu de baisser la pression et de montrer ce qu'un concile peut et ce qu'un concile ne peut pas fournir. Et là, ensuite, il est nommé expert du cardinal König de Vienne, et on a ici, je dirais, 8 Gutachten, des rapports qu'il a faits, parce que Ranner, plume à la main, a lu l'ensemble de la soixantaine de textes préparatoires qui se trouvaient ensuite dans les commissions préparatoires du Concile, les a annotés et critiqués, et on voit à travers son commentaire déjà naître en Genèse le futur Concile. Troisième ensemble, c'est tous les textes auxquels il a contribué. Il a fait un certain nombre de schémas, je ne vais pas entrer dans les détails ici, ça nous conduirait trop loin. Et quatrième ensemble, pendant le concile, il a pris soin, comme d'autres pères conciliaires, quand il revenait en Allemagne, ou il allait aux États-Unis, en Italie, il voyageait, de proposer aux chrétiens ce qui s'est passé pendant le concile, pendant les quatre sessions, et de commenter les différentes sessions. Après viennent les grands commentaires de Ranner, notamment le très grand commentaire du troisième chapitre de Lumen Gentium, qui est le texte sur la hiérarchie et la collégialité. Et l'ensemble se termine avec un très grand ensemble de conférences et de textes et de contributions post-conciliaires. Ranner est celui qui a tenté réellement de situer le Concile Vatican II parmi les 21 conciles œcuméniques et de montrer en quoi ce concile représentait une nouveauté inouïe dans l'histoire de la tradition chrétienne. Et comme il disait, c'est sans doute le premier concile d'une église devenue mondiale avec des chrétiens qui vivent en diaspora. Alors, il est heureux... Je vais un peu entrer dans les questions de fond, que nous disposions désormais, avec ce volume, la presque totalité des contributions de Ranner au Concile Vatican II et à son interprétation. On connaissait évidemment l'implication du théologien d'Innsbruck dans les travaux du Concile, au titre d'expert du cardinal König de Vienne depuis le printemps 1962 et ensuite comme théologien officiel depuis le mois de septembre de la même année. Mais ce n'est que grâce à cette publication qu'il est possible de mesurer son influence réelle. Interrogé fréquemment après le concile sur sa participation, Ranner a en effet toujours minimisé son propre rôle, sans doute par respect pour le travail collectif qui se fait dans une assemblée conciliaire, ou peut-être parce qu'il craignait qu'une personnalisation de sa contribution discréditerait le consensus obtenu et nuirait après coup à la réception de l'œuvre conciliaire. Il n'a rédigé aucun journal, seule sa correspondance amicale avec Herbert Vorgrimler nous donne quelques renseignements sur sa présence à Rome, alors qu'un Yves Congar nous livre, à la date du 7 décembre 1965 de son journal du Concile, la liste complète des textes conciliaires qu'il a rédigés ou à la rédaction desquels il a participé. Trois aspects spécifiques se dégagent de la lecture de cette imposante collection de documents et méritent d'être mis en relief aujourd'hui. Dans ses contributions ou commentaires, Ranner ne fait pas seulement de la théologie, mais propose aussi, et même d'abord, ce qu'on pourrait appeler une spiritualité conciliaire. Deuxièmement, il n'est pas seulement le théologien d'un schéma ou d'une question, mais fait résonner toujours plusieurs perspectives, voire rentrer telle question dans une vision d'ensemble. Et troisièmement, il amorce une réception proprement théologique du Concile, qui aujourd'hui encore relève davantage d'un programme que déjà d'une réalisation. Faute de temps, je me contenterai du premier aspect, spiritualité conciliaire, en faisant le lien avec ce qui a été dit par mes deux prédécesseurs. Ça me paraît la question principale et nous reconduit justement vers la question de l'avenir de l'Église dans nos sociétés sécularisées et laïques et peut-être une manière ranérienne de l'aborder. Donc, quant à la spiritualité du concile, elle paraît dès les deux premiers textes sur la théologie du concile et sur la consigne paulinienne de ne pas éteindre l'esprit. On la retrouve encore dans un des tout derniers témoignages de Ranner sur l'action de l'esprit au concile. En 1962, le théologien montre que tout en étant un mode d'exercice du ministère ecclésial en sa totalité, un concile ne représente jamais tout ce qui est charismatique dans l'Église et reste toujours surtout tributaire de ce qui est préparé grâce au travail de l'Esprit sous la forme de nouvelles découvertes, de nouvelles formes de vie chrétienne, suscitant de nouvelles décisions dont dépend le destin du royaume de Dieu. Cette première distinction ou relativisation ecclésiologique des compétences conciliaires de l'Église conduit Ranner, dans les années qui précèdent l'ouverture du concile, à prévenir ses auditeurs et lecteurs contre des attentes trop ambitieuses à son égard. Ce qui semblerait nécessaire à l'Église tout entière se heurtera inévitablement à ce qui est historiquement possible. Vu l'état de la théologie pendant les années 60 du dernier siècle et de la vie effective des communautés chrétiennes sur tous les continents. Ce qui à première vue ressemble donc à un scepticisme malvenu s'avère dans la suite comme essentiel à une spiritualité conciliaire. À savoir le lien entre deux attitudes, celle de la sobriété, Nüchternheit, et celle du courage, Mut. Nüchternheit und Mut, sobriété et courage. Le courage, lisons-nous dans sa relecture de la deuxième période du concile, qui risque une décision et qui est également capable d'entendre une orientation de Dieu dans la voie du temps, ce que Gilles nous a montré tout à l'heure. La sobriété, qui n'identifie pas tout simplement son propre esprit avec celui de l'Église et qui n'impose aux autres que ce qu'ils peuvent et doivent porter. Et les mélanges et l'unité juste entre ces deux attitudes, poursuit-il, est en fin de compte toujours ce qui est impondérable, qui n'est pas planifié et calculé clairement par les hommes, mais qui, du point de vue de l'histoire, apparaît comme un hasard de la constellation de l'histoire et qui est accueilli dans la foi comme la disposition de Dieu. Hasard historique et disposition divine. 20 ans plus tard, en 1983, un an avant sa mort, Ranner revient une fois encore sur l'événement conciliaire dans une même attitude sobre et sceptique, comme il dit, « nüchtern und skeptisch ». Mais cette fois-ci, il donne quelques exemples pour suggérer que telle ou telle bifurcation prise par le concile, sans que ce soit prévisible ou garanti d'avance, peut être interprétée comme étant l'œuvre de l'esprit. Ainsi, par exemple, le concile laisse-t-il tomber tacitement la doctrine, pourtant évidente pour les théologiens préconciliaires, selon laquelle un athéisme positif n'est pas possible dans la durée chez quelqu'un sans une faute grave. On retrouve plus cette doctrine à Vatican II. Ou, autre bifurcation, le concile parle bien plus prudemment et plus discrètement de la damnation que l'Église le faisait autrefois. Par ailleurs, une déclaration conciliaire sur la liberté religieuse qui est entrée aujourd'hui dans les mœurs aurait été impensable au XIXe et pendant la première moitié du XXe siècle. Ranner continue. On pourrait certainement mentionner d'autres cas semblables où l'on peut remarquer l'agir doux de l'esprit, silencieux et sans éclat, lorsqu'on comprend qu'un fait historique concret ne s'explique malgré tout pas entièrement à partir de ses causes tangibles intérieures au monde. Fin de citation. Cette attention extrême au possible à évaluer avec sobriété et à saisir avec courage et à l'enracinement du Concile dans des conditions historiques à la fois limitatives et ouvertes, fait que Rahner prend rapidement conscience que cette assemblée ne peut qu'être un commencement, le commencement d'un commencement. Non seulement au sens où les textes attendent leur réception dans la vie effective de l'Église, mais aussi et surtout dans le sens d'une relativisation de tout ce qui est en train d'être discuté et décidé par rapport à ce qu'il perçoit de l'avenir de l'Église. Je le cite. Cet avenir, en effet, n'interroge pas l'Église sur des détails précis de la constitution de l'Église, sur la forme plus précise et plus belle à donner à la liturgie, ni non plus en premier lieu sur les doctrines distinctives de la théologie de controverse face à la doctrine des chrétiens non catholiques, ni sur un gouvernement plus ou moins idéal de la curie romaine. Il interroge, l'avenir interroge l'Église sur le point de savoir si elle peut attester de façon crédible la proximité du mystère indicible que nous appelons Dieu, mystère qui juge et qui accomplit. Si elle peut saisir et annoncer le mystère de l'homme-Dieu de telle manière que ce dogme fondamental du christianisme n'apparaisse pas comme une mythologie, qu'il n'est plus possible de faire sienne, mais comme la réalité bienheureuse, incompréhensible, qui seule rend compréhensible toutes les autres choses du monde. Ce va-et-vient des questions de détail, souvent abordées avec grande technicité, et l'intervention parfois subite et inattendue des dimensions démesurées de l'histoire de l'humanité et de l'infini incompréhensible du Dieu qui se rend proche, fait que les conférences ou textes de Rahner sur Vatican II respirent d'un souffle puissant qu'on aura de la peine à trouver ailleurs dans l'immense littérature conciliaire du moment. Deux conséquences particulièrement significatives aujourd'hui de cette spiritualité conciliaire sont à signaler pour aujourd'hui. D'abord, une attention, elle aussi exceptionnelle, aux différences de mentalité entre la majorité et la minorité du Concile. La nécessité de distinguer nettement entre le climat du moment ou telle mentalité d'un côté et des énoncés doctrinaux et des dispositions juridiques provenant du Concile de l'autre. Je cite, « Dans cette distance entre mentalité conciliaire et décret définitif se trouve le lieu où se situe aussi bien le travail théologique humain que l'influence secrète de l'Esprit de Dieu qui joue dans ce travail et au-delà. Le lieu de la clarification de ce climat intellectuel précisément qui conduit à une doctrine ou à une détermination juridique de l'Église. » Fin de citation. L'enjeu du débat est l'entente entre tous, l'entente entre tous. Ce qui suppose que malgré l'indépassable différence des mentalités, chacun est prêt à apprendre de l'autre. Rahner l'explicite à partir du cas exemplaire de la mariologie. C'est ici qu'une comparaison entre les parlements modernes et l'assemblée conciliaire s'avère instructive. Dans la mesure où cette dernière ne connaît pas des vainqueurs et des vaincus et reste jusqu'au bout portée par la force de chercher ce qui est commun à tous, s'appuyant sur un autre esprit et style de débat qui renvoie ultimement au travail de l'Esprit au sein de l'Église. L'autre conséquence de cette spiritualité conciliaire est l'insistance sur l'intelligence collective, d'où la discrétion de Rahner par rapport à ses propres productions, signe d'une conscience aiguë que la vérité doit être cherchée et trouvée à plusieurs. Certes, Rahner se trouve parmi les quelques périti experts qui ont le plus travaillé. Dans ses lettres à Herbert von Grimmler, on tombe fréquemment, comme d'ailleurs dans le journal de Congar, sur des gémissements provoqués par le poids de la charge. Mais au lieu de produire une personnalisation, voire un végétariat, l'équipe est toujours privilégiée. L'élaboration du schéma d'Ecclesia par les Allemands, retracé par un historien de l'université d'Innsbruck, Günther Wasilowski, en est l'exemple le plus parlant. Ce processus illustre par ailleurs la grande capacité des épiscopats ouest-européens et surtout de leurs théologiens de collaborer et d'œuvrer en faveur de textes susceptibles de rassembler un maximum de suffrages. Ce qui a nécessité parfois des renoncements constructifs, comme durant l'interaction par-delà les frontières linguistiques durant toute la première période du Concile et la première intercession, qui a finalement conduit à privilégier en février 63 le De Ecclesia du Belge, Mgr Philips, et non pas le texte préparé par Rahner et les théologiens allemands. Une remarquable entente s'est faite grâce à des théologiens comme Congar et Rahner et leur sens du bien commun de l'Église et du Concile. Je crois qu'il faut vraiment le souligner, c'est peut-être un peu ça qui nous sépare aujourd'hui dans la situation actuelle de ce qui a été vécu à cette époque. J'en viens rapidement au deuxième point de mon intervention, la manière rahnérienne d'aborder l'avenir de l'Église. L'expérience que Rahner fit au Concile représente une césure décisive sur son itinéraire et dans son propre œuvre. Étant habitué à faire les exercices spirituels de Saint Ignace et à les donner à d'autres, comme on dit, Michel Fidou nous l'a montré, ayant proposé aussi une interprétation originale de ce texte du XVIe siècle, Rahner savait pratiquer et penser le discernement ignatien. Mais une chose est le discernement individuel, une autre est la délibération collective avec ses méandres, ses résistances, ses avancées, ses projets politiques, etc. Dans le volume 10, l'Église face au défi de notre temps, volume présenté à l'instant par Gilles Routhier, se trouve un texte décisif intitulé « Éléments dynamiques dans l'Église », petite questio disputata qui date de 1958, on est quelques mois avant l'élection de Jean XXIII et l'annonce du Concile. Ce texte réunit trois études et qui porte sur la vocation de l'individu et sur son charisme dans l'Église. Y intégrant alors une étude, c'est la troisième intitulée « La logique de la connaissance existentielle chez Ignace de Loyola », Rahner montre à quel point les exercices spirituels de Saint Ignace et leur manière d'aider le sujet à rencontrer immédiatement Dieu et à trouver ainsi son charisme et sa vocation contribue au dynamisme spirituel de l'Église. Mais, après l'expérience collective de Vatican II, paraîtra une autre manière de se saisir des exercices et de les situer par rapport et dans l'Église. Dans une conférence donnée en 1974, pas encore traduite en français, Rahner s'étonne du fait, je le cite, que les exercices sont un événement solitaire du sujet individuel et que l'Église ne devient pas événement en tant que sujet agissant. Fin de citation. Nous pourrions en effet nous demander maintenant, continue-t-il, si l'Église comme petite communauté concrète ne pourrait pas être elle-même sujet d'une élection religieuse et existentielle, du discernement des esprits et de l'expérience de consolation au sens ignatien du terme. Cette question peut prendre chair précisément au moment où nous entrons dans une nouvelle époque, dit Rahner, qui semble s'annoncer avec la fin de la modernité, dans une époque donc, je le cite, où ce qui caractérise les exercices dans leurs lettres reste et demeure valable. mais n'est plus la signature nouvelle du temps, comme au XVIe siècle. Avec une extrême concision, Rahner caractérise ce temps, toujours en 1974, et on revient au début de l'exposé de Gilles, époque profane d'une humanité globalisée. Je le cite. « Dans les conditions de la civilisation rationnelle et technique de l'Occident, qui se répand partout dans le monde, il cherche des formes supérieures de socialisation de l'homme, dans lesquelles la dignité et la liberté de l'individu se trouvent réconciliées avec sa socialité, comme avec les nécessités qui lui sont imposées pour sa survie par la situation matérielle et sociale d'aujourd'hui et de demain. » Cela signifie pour l'Église, je reprends la parole, qui à Vatican II s'est surtout adaptée à la modernité, qu'elle doit non seulement chercher de nouvelles formes de socialité, ce qui se fait déjà à travers un certain nombre de tentatives, mais, je cite Rahner, qu'elle saisisse la chance de développer sur son propre terrain des formes de socialité qui font d'image. Des formes que la société cherche encore, de sorte qu'à l'avenir l'Église ne soit pas simplement obligée de s'adapter à des conditions sociales qui se sont produites dans le monde profane. Rahner fait ici allusion à sa thèse d'une Église devenue mondiale, mais partout en diaspora. Or, à revenir maintenant à Saint-Ignace, on découvre, dit Rahner, qu'il n'est pas tout entier dans ses exercices et qu'il existe chez lui des préformations d'une compréhension et d'une réalisation de la communauté qui peuvent devenir significatives dans l'actuelle recherche de formes de socialisation ecclésiale. Rahner rappelle ici qu'Ignace a vu dans le groupe qui unit par l'esprit des exercices le fondateur de l'ordre et il mentionne surtout la célèbre Deliberatio Communitaria du groupe et non, comme il dit, dans le groupe, la délibération du groupe et non pas dans le groupe des premiers compagnons. La question qui surgit ici est donc celle-ci. Peut-on attendre, à partir de la nouvelle situation de l'Église à la fin de la modernité, que de nouvelles formes d'exercice voient le jour, 74, des formes dans lesquelles l'Église se réalise sans être seulement objet avec lequel le retraitant compte, mais en tant que sujet qui agit et se réalise dans une communauté concrète de fidèles. Rahner donne évidemment une réponse positive à cette question. Il vient en effet de faire l'expérience au Concile Vatican II d'une Église qui se conçoit non pas comme objet de soucis et de soins conciliaires, mais comme sujet historique et qui prend conscience qu'elle doit discerner dans l'esprit et avec une spiritualité conciliaire son propre avenir au sein d'une histoire humaine globalisée, radicalement sécularisée et ouverte. Il y a désormais un lien pour Karl Rahner entre d'un côté une expérience individuelle et ecclésiale de l'infini incompréhensible et silencieux du Dieu qui se rend tout proche en Jésus-Christ, et de l'autre côté cette proximité spirituelle ouverte à l'avenir qui se réalise dans un certain type de socialisation et de délibération conciliaire et synodale, capable de donner la voix à tous, en particulier aux plus faibles. L'Église post-conciliaire a connu de nouvelles périodes de glaciation, périodes que Rahner a vécues difficilement, provoquant son attitude de sobriété et de courage qu'il a montré jusqu'à la fin. Il me semble que l'insistance du pape François sur la synodalité ecclésiale à tous les niveaux et sur la transformation missionnaire de l'Église tout entière comme principe de réforme renoue avec l'intuition de Rahner en 1974. Quoi qu'il en soit, nous sommes en tout cas à un moment de l'histoire de l'Église, un kairos, où l'œuvre de Karl Rahner peut à nouveau nous inspirer et sans doute montrer des aspects jusqu'alors peu remarqués par ses lecteurs. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Christophe, pour nous avoir fait entrer dans une manière, dans la manière qu'avait Ranner de se rapporter au travail du Concile. On pourrait dire peut-être en y cherchant avant tout le travail de l'esprit. Et dans une attitude donc qui met en avant, on pourrait dire, une attention finalement, une attention à ce qui naît, ainsi qu'aux protagonistes, aux différents protagonistes de cet événement du Concile. Et il me semble qu'à partir de ce que tu disais, on comprend comment le Concile a été vraiment un événement pour ceux qui ont participé. Voilà, un événement qui a peut-être permis aux participants de faire l'expérience d'une communauté qui soit un sujet ecclésial, comme ce que tu annonçais aussi. Voilà. Je vous propose maintenant qu'on prenne du temps pour des réactions, des questions, des commentaires. Et pour ça, il y a un micro qui peut circuler.
Première la plus difficile. Ouais.
En faisant le travail de traduction du volume sur Vatican II, j'ai noté qu'à un moment donné, Karl Rahner fait un virage de 180 degrés à propos de l'Église, la conception de l'Église. Dans le temps de la préparation de Vatican II, comme beaucoup d'auteurs, d'ailleurs, d'autres théologiens, il écrit un texte sur la collégialité. La collégialité qui était à ce moment-là une espèce de tarte à la crème, si je puis dire, pour tous les théologiens qui pensaient que il fallait trouver un remède à l'exercice solitaire du gouvernement de l'Église universelle par le pape. Karl Rahner écrit un article sur la collégialité dont l'horizon est l'Église universelle. L'Église universelle gouvernée en son centre par le pape. Et il réfléchit, en théologien spéculatif qu'il est, sur la manière dont cette collégialité pourrait prendre forme. Et il envisage alors que ce collège pourrait être constitué d'évêques, pas tous les évêques, pas les évêques des évêchés crottés, mais des grands évêchés, les supérieurs des grands ordres religieux, dont évidemment le général des jésuites, et puis aussi les responsables des universités catholiques.
Oui.
Cette vision des choses lui a valu de grandes critiques, et en particulier une critique extrêmement virulente de la part d'un moine de Schäftein, dont Strottmann, dans la revue Irenicon, qui a vu une conception des choses totalement opposée à la tradition chrétienne. Or, plus tard, Rahner sera invité à faire le commentaire du chapitre 3 du texte de Lumen Gentium pour le grand commentaire de Herder. Et là, il fait un commentaire extrêmement technique, extrêmement détaillé, et arrivé au moment où il est question de la fonction sanctificatrice de l'évêque, on trouve la formule de l'Église particulière, c'est-à-dire l'Église locale, l'Église diocésaine, dans laquelle et à partir de laquelle existe l'Église universelle. On a là un renversement total de perspective chez Karl Rahner, et il me semble que ce renversement n'est pas sans conséquence dans la manière dont il comprendra le rôle et la situation de l'Église dans le monde d'aujourd'hui, enfin celui de Karl Rahner et celui d'aujourd'hui. Et il dit d'ailleurs, cela se trouve dans une petite note, on aurait pu et on aurait peut-être dû construire l'Humen Gentium à partir de cette vérité des églises particulières dans lesquelles et à partir desquelles existe l'Église catholique. Et j'ajoute simplement, si vous me permettez, qu'on peut regretter que Karl Rahner n'ait pas vécu assez longtemps pour assister, peut-être participer, à la controverse des cardinaux, c'est-à-dire entre Walter Kasper et Joseph Ratzinger, controverse qui a porté précisément sur l'interprétation de cette formule. Voilà, je vous remercie.
Oui. Mais merci d'avoir souligné ça, parce que c'est vraiment une question tout à fait décisive. Alors, l'humour de l'histoire, c'est-à-dire les choses sont renversées, c'est-à-dire pendant le Concile et après le Concile, c'est plutôt Josef Ratzinger qui a défendu une ecclésiologie locale, et plus tard, il a défendu plutôt une ecclésiologie universaliste, n'est-ce pas? Alors on voit les fronts se sont renversés. Mais je dis, pour Rahner, la chose remonte, à mon avis, j'ai fait une petite recherche là-dessus, c'est-à-dire à 1963. C'est-à-dire justement ce moment où, que j'ai évoqué, extrêmement critique, où le Concile avait 4 ou 5 projets d'ecclésia. Et il fallait arriver à une synthèse. Et donc, il fallait choisir un texte. Et donc, à ce moment-là, Rahner et les Allemands renonçaient à leur texte et ils ont dit, on va prendre le texte de Philips. Et c'est à partir de ce moment-là que Rahner a beaucoup réfléchi à la question de l'Église locale. Et notamment, c'est lui qui a rédigé, l'Humen Gentium 26, où est introduit, tu as cité à l'instant un autre passage, l'Humen Gentium 22 ou 23, je pense, la célèbre formule « l'Église universelle subsiste dans les églises particulières hein, », mais et inversement. Mais le numéro 26 parle de l'Église en diaspora, et l'Église en diaspora, c'est d'abord l'Église locale, l'Église locale. Et donc ça introduit évidemment une toute autre ecclésiologie, je pense. L'ecclésiologie universaliste est une ecclésiologie plutôt liée, mais il faudrait que je laisse plutôt à Gilles d'exposer ça, à la tradition ancienne et orthodoxe, c'est-à-dire, comme a dit le père Tillard, l'Église communion d'Église.
J'ai oublié de le faire, que cette formule de l'Église particulière dans laquelle et à partir de laquelle existe l'Église universelle et catholique est une formule rédigée par Karl Rahner,
oui.
Mais sous l'inspiration d'un évêque melkite, Monseigneur Zogby, archevêque d'Antioche.
Oui, oui. Et là, il y a les liens aussi avec le texte sur les églises orientales.
S'il y a d'autres remarques, questions.
Oui, j'aimerais faire le lien entre l'insistance sur le discernement à titre personnel, qui est quand même un élément essentiel de ce que disait Michel Fédoux sur l'inspiration ignatienne, et la synodalité que souligne Christophe dans la fin de son exposé. C'est-à-dire, moi je suis frappé par l'actualité, c'est-à-dire le pape François insiste sur les deux. précisément. C'est-à-dire, il y a à la fois cette insistance sur le discernement pastorel, personnel et pastoral, pour l'accompagnement des situations difficiles à partir d'Amoris Laetitia, et en même temps sur la synodalité et la décision communautaire et le processus d'élaboration commune. Enfin, je suis assez frappé de voir que on retrouve finalement dans l'actualité quelque chose qui est très central chez Rahner, et le lien entre les deux est important.
Après une période de glaciation, n'est-ce pas, comme il l'a dit lui-même.
Voilà, mais n'hésitez pas à reprendre la parole pour une question, un commentaire, une réaction.
Oui, là.
Énormément, mais je voulais souligner, quand on fait la transposition entre le temps de Rahner et à propos, par exemple, du dialogue interreligieux, protestant et tout ça, il n'a pas connu ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez, Père Routier, parlé de, à un moment donné, vous avez mentionné la péninsule ibérique. Or, est-ce que vous entendez sous ce terme l'Amérique latine ou non? Péninsule, bien sûr que ce n'est pas l'Amérique latine, la péninsule, mais c'est une culture à la fois hispanique et portugaise. Or, ce qui se passe dans ces pays, ce n'est plus le protestantisme tel qu'on a connu, ou tel qu'on connaît, que moi j'ai bien connu avec mon maître Ricoeur, c'est pas, et d'autres luthériens et tout ça, c'est autre chose. Ce sont les évangéliques. C'est une véritable invasion et où le dialogue est presque impossible. Des grands-mères ne peuvent pas aller à la fête de leurs petits-enfants si elles n'est pas converties à la théologie de la prospérité, comme on dit là-bas. C'est très différent peut-être des évangéliques en France qui se répandent dans toute l'Europe. Il y a de plus en plus des évangéliques. S'ils ne sont pas, on dit encore presbytériens, non, c'est tout autre chose. Mais ce qui se passe en Amérique latine est quand même très inquiétant. Il y a des archevêques, il y en a un au Brésil, et il a tout à fait raison, mais vous ne pouvez pas comprendre, qui préfère les cultes africains.
Oui. Gilles, si tu veux. Bon, d'abord, lorsqu'il parle de la... Ce n'est pas une expression qui est mienne, je vérifie sur le texte, et c'est Rahner. Alors, manifestement, il parlait de la péninsule ibérique et non pas de l'Amérique latine. Et probablement qu'il connaissait beaucoup moins. Et d'autre part, qui connaissait déjà au moins au début des années 60, ce que vous avez désigné comme invasion. Mais pas dans les années 60. Oui, absolument. Oui. Oui, on a déjà l'appel de Pie XII et on a formé précisément en 1953 le collège pour l'Amérique latine à Louvain en raison du fait. Et là, on a ça dans la lettre de Pie XII au cardinal Van Roy. En raison de l'invasion des protestants et du communisme, et il y avait trois mots. Alors, c'était déjà là, pas dans les mêmes dimensions et pas avec les mêmes moyens qu'aujourd'hui, mais également à la fin des années 50, pour les raisons, et on était sur le McCarthyisme, et j'ai trouvé dans les archives aux États-Unis à Washington qu'on finançait même, en raison de ne pas avoir de critique de l'Église catholique avec son enseignement social. Bon. Mais ceci dit, ce n'est pas le propos de Rainer. Mais lorsqu'il parlait de péninsule ibérique, il parlait de la véritable péninsule ibérique que nous connaissons. Et il disait, à son point de vue, et il glissait sur l'Italie, et d'ailleurs, ça se manifeste dans les délibérations conciliaires, quand on regarde qui était pour, qui était contre la proposition du schéma sur la liberté religieuse, globalement, les églises qu'on appelait, ou les pays catholiques, et qui vivaient sous concordat, à ce moment-là, c'était, et le protestantisme, était interdit par la loi en Espagne. Alors, il parle de la péninsule ibérique, et on va s'y tenir. Alors, à ce moment-là, il disait, outre ces espaces, les autres espaces se retrouvent dans une nouvelle situation. Et étant dans cette nouvelle situation, il ne faut pas voir ça comme un mauvais sort, mais voir les possibilités que recèle cette nouvelle situation.
Mais,
simplement, il y a eu une modification qui n'est plus le protestantisme que l'Espagne refusait, mais je ne parlerai pas de l'Espagne parce que mon ascendance est portugaise. Et le Portugal est le pays qui tourne le dos, qui a pu exister en tournant le dos à l'Espagne.
Et on pourrait se demander, à partir de votre question, est-ce que, à partir de la réflexion de Rainer sur l'Église, on a de quoi réfléchir sur le phénomène des églises évangéliques aujourd'hui? Par exemple, ce que tu disais sur le christianisme en diaspora, et qu'est-ce qui peut en être d'une communion ecclésiale dans un contexte comme ça? Est-ce qu'on peut recevoir des éclairages là-dessus de Rainer?
Bon, d'une part, je dirais, pour les églises évangéliques, dans les familles d'églises évangéliques, on dit qu'il y en a 31 000 actuellement. 31 000. Alors, utiliser la catégorie Église évangélique me semble impossible à tenir. Entre une Église évangélique dans le Bible Belt aux États-Unis et ce qu'on peut retrouver au Québec, c'est deux mondes. Alors, Église évangélique m'apparaît une catégorie difficile à tenir. Deuxièmement, il va falloir périodiser entre des Églises évangéliques qui commencent et qui ont gagné en maturité, les mentalités sont différentes. Mais elle révèle précisément ce que Rainer va travailler, c'est-à-dire il va distinguer deux formes de catholicisme, un catholicisme de masse où c'est de l'extérieur que les fidèles sont croyants et non pas, et il va travailler à partir, il y a des textes là-dedans sur l'individu chrétien et il va dire si on est simplement dans un catholicisme de masse, je cherche en même temps l'individu dans l'Église, sa valeur dans l'économie du salut. Alors là, il y a toute une réflexion, et c'est pour ça que je disais, c'est sur la condition chrétienne dans le monde. Mais précisément, ces églises de chrétienté de masse ont révélé leur faiblesse à partir du moment, et c'est pas simplement l'action des autres, mais c'est à partir de la faiblesse d'une forme de catholicisme et d'une forme de chrétienté.
Christophe. Puis après, j'ai d'autres questions qui sont demandées.
Oui, juste une très brève remarque. De toute façon, il faut reconnaître qu'il y a une distance historique qui nous sépare de Ranier. On n'est plus dans la même position. D'où, je dirais, la proposition du sunt theologein, comme moi j'aime bien dire, c'est théologiser avec Ranier aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut signifier. Cela étant dit, il a lui-même vécu une mutation très importante. Et alors, une touche à la question de l'évangélisme, c'est-à-dire Ranier s'est beaucoup intéressé, il est touché par ça, dans les années 70 par les mouvements charismatiques. Et tout un volume. Et il dit, il y a un ressort dans la spiritualité ignatienne, peut-être n'avons-nous pas fait attention assez à tout ce qui est affectif. Et on parle toujours maintenant d'une sentimentalisation, d'une affectivisation de la foi chrétienne. Qu'est-ce que c'est cette affectivité chrétienne? Et Ranier pose clairement la question dans les années 72, 13, 14. Deuxièmement, je termine par là, il pose la question de nouvelles formes de socialisation. Et donc, est-ce que nous avons, je dirais, le courage, je dirais, de regarder un tout petit peu nos propres formes de socialisation dans le catholicisme, leur adaptation, leur inadaptation à la situation, et interrogeons-nous pourquoi, précisément, les groupes évangéliques se forment aussi sur notre continent.
Merci. Il y avait donc deux autres personnes qui avaient demandé la parole.
Oui. J'aurais posé une question, par rapport à ce qui a été évoqué lors des interventions, qui n'a pas été approfondi et qui pourrait mériter qu'on y revienne. Vous avez dit donc la situation nouvelle créée par le changement historique, la situation de l'Église, induit aussi un changement dans la formation du chrétien. Alors, formation du chrétien, à la fois en relation avec sa vie spirituelle, mais aussi au sein de l'Église. Est-ce que vous pourriez préciser peut-être les uns les autres ce que vous aviez en vue?
Oui. Alors, si je vais plus loin que tout à l'heure, il dit il y a des conséquences à cette nouvelle situation. Et il y a un versant qu'il va appeler négatif ou de déconstruction. Il y a des choses du passé qui ne sont plus possibles et qu'il faut même, auxquelles il faut renoncer. Et il y a un versant où on peut élaborer quelque chose. Et il va dire il y a des conséquences pour le chrétien, pour le clergé et pour l'Église dans son institutionnalité. Alors il va travailler à ces trois niveaux-là. Et pour le chrétien, il va bien admettre que si ses compagnons, les gens avec qui il travaille, les gens de sa famille, etc., ne sont pas chrétiens, sa foi est en danger. Parce que, et il va dire que la condition de l'acte de foi est différente. Et à ce moment-là, si sa foi est en danger, et que sa foi n'est plus supporté par un environnement, à ce moment-là, elle devra être plus intériorisée et également plus, non pas intellectualisée, mais plus solidement appuyée. Et la citation est celle-ci, « Sa foi sans cesse menacée de l'extérieur, le christianisme ne peut pas s'appuyer sur le cadre des institutions, qu'il s'agisse de morale. » Alors, ce n'est plus l'environnement qui va lui dire si on peut être pour ou contre la mort dans la dignité, comme on dit chez nous, ou l'avortement, etc. Et ce n'est pas l'État. Alors, il va dire, c'est à chacun de se l'approprier par un effort personnel de reconquête. Le temps n'est plus où l'on n'avait qu'à recevoir de ses ancêtres à la façon d'un héritage. Il sera non seulement solitaire parmi les siens, mais un étranger dans le monde. Et là, il y a toutes des réflexions, notamment parce que si l'Église ne peut plus agir de la même manière non plus, elle agit par ses enfants dans le monde. Et si ses enfants, leur foi est menacée, voyez, il faudra requalifier les chrétiens et leur participation chrétienne à la vie sociale et civique, et également s'intéresser à leur formation chrétienne davantage. Rapidement dit.
Oui, bonsoir. Denis Muller, théologien protestant. Je voulais réagir à ce que madame a dit et à la discussion que vous avez eue par une remarque et puis une question sur par rapport à Rane, mais en lien avec ce que je vais dire. D'abord, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Christophe. La sociologie du protestantisme et du mouvement évangélique en Amérique latine, en particulier dans le monde, est beaucoup plus complexe que les catégories simplifiées auxquelles on veut. Il y a des évangéliques, j'en avais plein comme étudiants, qui sont anti-fondamentalistes, et puis il y a des évangéliques qui sont complètement fondamentalistes. Rien que cette distinction-là, elle change complètement le type de posture intellectuelle et de dialogue, mais c'est pas si facile à savoir lesquels le sont vraiment et lesquels sont des... Non, les autres, vous avez ces problèmes dans le catholicisme, vos problèmes dans le catholicisme, de délimitation, nous on a aussi les nôtres. Deuxièmement, c'est pas qu'un problème protestant. Moi je connais assez bien, je connaissais dans les années 90 assez bien le Mexique. Les sectes de Horas, sectas a Horas, ça veut dire quoi? Quand on discute avec les Mexicains, 1990, comme ma première expérience. On leur demande c'est quoi les sectes. Quand on discute jusqu'au bout, c'est Luther, Calvin, jusqu'au témoin de Jéhovah. Donc ça confirme ce manque de rigueur sociologique ou ce fait que ce sont des préjugés. Je ne sais plus quelle est l'année du voyage de Jean-Paul II en Amérique latine, vous allez me le rappeler, c'est un peu après. C'est dans les années 90. Jean-Paul II, certains collègues sociologues comme Bastien ou Campiche ou d'autres ont analysé leur discours. On voit bien ces discours. On voit bien que le public cible, c'est les évangéliques fondamentalistes. Pour autant qu'ils connaissent la différence entre les deux, ce qu'on ne voit pas dans les discours, mais c'est aussi les charismatiques dont la moitié au moins sont catholiques. Donc l'Amérique latine, est un continent où le mouvement charismatique est encore plus important que le mouvement évangélique et où il y a presque, je ne sais pas les chiffres, puis je ne les ai pas mis à jour, mais où ça concerne autant les catholiques que les protestants. Donc ça montre bien que le problème, il est celle de la contextualisation de la théologie. Et alors j'aimerais, sous ce mot clé, j'aimerais poser deux questions aux membres de la table ronde. C'est un, est-ce que le défaut principal de Karl Rahner, c'est pas d'avoir, pas à cause de son époque aussi, c'est de n'avoir, la différence d'époque que vous soulignez, et de n'avoir pas pensé ce concept de contextualisation. Puis deuxième question, dialectique et paradoxale, est-ce que nous ne mourrons pas aujourd'hui d'un excès de contextualisation qui fait qu'on a vraiment besoin de théologiens spéculatifs, par exemple Karl Rahner? Spéculatif dans le sens d'universel. C'est un protestant qui part.
Michel. Je peux dire un mot très bref, mais Christophe et Gilles compléteront. Je crois que c'est important de redire pour ce que disait Christophe il y a un instant. C'est-à-dire que on ne peut pas attendre. On ne peut pas s'attendre à trouver chez Rahner des réponses à des questions qui ne pouvaient pas se poser il y a 30 ans ou il y a 50 ans. Je crois qu'il y a un décalage historique dont il faut être évidemment conscient. Par contre, ce qui est tout à fait essentiel, c'est d'arriver à identifier un mouvement de pensée, des réflexes, au fond, d'interprétation de la situation présente telle qu'il la connaissait en son temps, et de voir comment ça peut nous inspirer, nous éclairer aujourd'hui par rapport à des problèmes qui sont évidemment différents. Ce que j'ajouterais simplement, c'est deux remarques. Je laisserai plutôt Christophe ou Gilles le soin de répondre plus directement à la question qui vient d'être posée. Mais premièrement, enfin, il y a quand même cette conférence très importante de Karl Rahner en 1975, je crois, à Boston, quand il réfléchit sur Vatican II, et dans lequel il dit que pour la première fois à Vatican II, l'Église est devenue une Église ayant des racines dans toutes les parties du monde. C'est-à-dire qu'il n'a pas employé évidemment le mot contextualisation, mais je pense qu'il a donné à ce moment-là la mesure, il a pris vraiment la mesure du tournant qui avait été opéré par Vatican II. Je crois que c'est tout à fait inspirateur pour une réflexion actuelle sur la contextualisation, même s'il n'employait pas le mot. Et puis ma dernière observation, c'est que parce qu'on a quand même, on a beaucoup touché depuis quelques minutes le problème des relations avec les évangéliques. Moi, je crois que s'il y a aussi des éléments à puiser dans la pensée de Ranner pour faire face à ces problèmes, même s'ils se posent aujourd'hui sous une forme différente de celle qu'il connaissait, c'est à partir de ses écrits œcuméniques, dont on n'a pas parlé ce soir, mais qui sont quand même des textes importants dans l'œuvre de Ranner, qui ne sont pas encore traduits en français pour la plupart, mais dans lesquels, je pense, on peut trouver beaucoup de grains à moudre dans la perspective de questions comme celle qu'on vient d'évoquer.
Très brièvement, je reviens, je pense que c'est Christophe qui a dirigé la thèse, mais de Pedro Rubin, sur discerner la foi. Alors là, il y a théologie de la libération, mouvement charismatique et église protestante. Et c'est le cas du Brésil. Alors, c'est fort intéressant et de voir les va-et-vient entre tout ça. À propos de contextualisation, puisque j'ai le PDF, tout de suite, utilise-t-il le terme, mais le terme, le concept de contexte revient souvent quand même dans ce volume. Il avait bien conscience, lorsqu'il parle d'un monde dans lequel il est né et du monde dans lequel il évoluait après la Seconde Guerre mondiale, que non seulement on changeait de monde, mais il va dire qu'on n'est plus dans le même contexte. Et il revient souvent dans ce contexte. Mais c'est sûr que pour lui, comme il le dira d'ailleurs dans cette conférence, il appartient à une Église européenne. Et lorsqu'il parle, il parle en contexte. Et quand il parle du changement de monde, c'est à partir de la situation allemande. Et donc, le contexte est quand même présent. C'est un théologien qui parle à partir d'un lieu particulier. Et ça, il le réalise quand même un peu.
Il ne faut pas oublier la deuxième partie de la question de Denis Muller sur l'excès de contextualisation possible aujourd'hui.
Oui, c'est peut-être vrai. C'est pour ça que Ranner est exemplaire, je pense. C'est au fond le seul théologien que j'ai trouvé au XXe siècle qui tient vraiment les deux bouts de la chaîne. Alors, le versant contextuel naît effectivement dans le contexte après le débâcle 1945, et donc Ranner fait lui aussi, il était curé en Bavière pendant 3-4 ans, et il est affronté à une déchristianisation extrêmement rapide. Et donc le contexte. Et donc il est lui, quand même, l'homme, je dirais, avec Chenu, à Vatican II, des signes des temps. C'est lui qui provoque la grande crise entre les deux épiscopats très unis de France et d'Allemagne, après la troisième version du schéma Gaudium et Spes, en disant « Vous n'avez aucune réflexion, une méta-réflexion un peu sérieuse, je dirais, sur le rapport au contexte. » Parce que Gaudium et Spes, c'est le texte qui fait un discernement, et où il y a de la sociologie, il y a de tout, n'est-ce pas? Mais Ranner était furieux. Il dit « Mais comment l'Église catholique peut-elle tout savoir ça ?» Ce qu'elle dit là, dans un texte du magistère. Réfléchissons un peu sur la méthode. Donc il a fait un texte, et il a provoqué la crise, et ensuite, en septembre-octobre, les évêques français et allemands et les experts se sont mis d'accord sur un texte qui est assez remarquable quand même. Assez remarquable, Gaudium et Spes, sur ce point-là. Alors il faut bien souligner ce point-là, c'est devenu un théologien contextuel avec une méta-réflexion. Et ce qui est remarquable, qu'il a tenu jusqu'au bout de sa vie l'autre chaîne, c'est à partir du contexte de réfléchir les questions spéculatives de fond et de les revisiter. Je donne simplement un exemple, la situation de diaspora qui a été évoquée et la conversion de Ranner à l'église locale et particulière. Et donc théologiquement, on va se poser pour lui la question, qui est la question de Vatican II, est-ce que au deuxième millénaire, on a su distinguer la grâce baptismale, qui est la grâce que tout chrétien reçoit au moment du baptême, mais qui n'est pas coextensive à la gratia Christi, lisons l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Colossiens, la gratia Christi, la grâce du Christ, est répandue sur le monde entier depuis le début de la création. Et donc, comment penser dans un christianisme en diaspora et dans une situation de pluralisme radical l'universalité de la grâce du Christ et finalement la catholicité de Dieu lui-même? Et alors, il a repensé ces choses-là à partir de la situation. Voilà, je dis, c'est ça qui est fort, et en ce sens, il est paradigmatique parce qu'il y a un équilibre assez rarement atteint entre une réflexion contextuelle d'un côté, avec des choses éminemment concrètes, et une approche spéculative jusqu'au grand axiome que vous connaissez peut-être, la trinité économique et la trinité interne, et inversement. Voilà.
Merci. Il y a encore peut-être l'espace pour une question. Claire-Anne.
C'est un peu au sujet du dernier point qui vient d'être abordé. C'est impressionnant de voir comment Ranner fait passer la théologie de la néo-scolastique à un nouveau mode de pensée. Parce que souvent, dans vos propos, vous abordez ce qui vient après, une fois qu'il a déjà dépassé ce qui a été sa formation et qu'il a travaillé au présent et pour notre futur, enfin pour son futur, pour notre actualité. Mais déjà, pour ces textes même, il a dû dépasser ce qui était préalablement la construction transmise et rendue dans une certaine évidence, enfin qui était présentée dans une certaine évidence. Je me demande si c'est pas précisément parce que c'est un penseur de la grâce en tant que coaction de l'homme et de Dieu, avec un respect mutuel, j'entends bien ce qui est dit, Perfedou parle bien sûr le respect et la gloire de Dieu, mais aussi un sentiment du respect mutuel, celui que Dieu porte à l'homme. Si on, la forme d'amour de Dieu, il a une perception de la forme de l'amour de la part de Dieu envers l'homme, qui lui permet de penser la grâce et de donner par là un outil qui nous est, qui est opérant maintenant encore en théologie. C'est à peine une question, mais voilà, je souhaitais le dire comme ça.
Je concerne vraiment entièrement parce que on peut se rappeler quand même d'abord que Ranner, qui a beaucoup enseigné, en fait, il a surtout enseigné ce qu'on appelait à l'époque le De Gratia. Hein. Il a fallu la question, il a aussi enseigné dans d'autres champs, mais enfin, la question de la grâce était vraiment l'objet d'un enseignement majeur pour lui pendant des années. Et c'est vrai que, j'ai essayé de le dire à travers le volume L'Esprit Ignatien, la thématique, l'approfondissement de la réflexion sur la relation de Dieu à l'homme, de l'homme à Dieu, est absolument central. Et je trouve que, quel que soit le sujet, le thème abordé par Ranner, on la voit toujours revenir, cette question absolument centrale de la relation de l'homme à Dieu. Ce qui est très ignatien, et ça envahit justement, ça imprègne quantité de champs de réflexion théologique de Ranner.
Je crois que la scolastique est déjà dépassée par son rapport aux exercices, justement. C'est-à-dire, il y a une autre couche que simplement la formation scolastique qu'on ne retrouve pas dans la forme et dans l'exposé, mais il y a le 16e siècle. Moderne.
Oui, une autre remarque, parce que ça ne relève pas peut-être tout à fait de notre soirée, le dépassement de la scolastique, parce qu'on n'a pas parlé de philosophie du tout. Et avec ces trois volumes, évidemment, ce n'était pas la question. Mais au point de départ de Ranner, il y a quand même les deux volumes tout à fait remarquables qui le font sortir du néo-scolastique pour revenir à une nouvelle manière de lire saint Thomas. Et c'est l'esprit dans le monde et c'est l'auditeur de la parole. Donc l'auditeur de la parole est déjà paru. Donc on a maintenant, il y a d'ailleurs les deux versions, à la fois la version initiale de Ranner et la réécriture par Jean-Baptiste Metz. C'était un volume extrêmement intéressant que je conseille à tout le monde. Et l'autre va sortir au mois de septembre, l'esprit dans le monde. Et la thèse fondamentale de Ranner, là on le retrouve de nouveau, docteur de la grâce, c'est-à-dire au point de départ, il n'y a pas une séparation entre philosophie et théologie, comme s'il y avait un premier étage qu'il fallait monter pour ensuite accéder à la théologie, mais fondamentalement, philosophie et théologie sont radicalement unis. Et pour une raison proprement théologique, l'homme étant créé à l'image et à la ressemblance, je dirais, de Dieu, on ne peut pas séparer, c'est la thèse aussi de Karl Barth, l'homme de Dieu, et donc on ne peut pas non plus faire une anthropologie théologique chrétienne sans intégrer immédiatement la grâce du Christ, et donc la figure même du Christ. Et donc dans les deux volumes, et ça c'est tout à fait iconoclaste pour l'époque, Ranner sort de la néo-scolastique en proposant, je dirais, une nouvelle manière d'approcher à la fois saint Thomas et je dirais, la philosophie contemporaine.
Voilà, mais je pense qu'on peut s'en tenir là puisque l'heure est arrivée. Un très très grand merci à nos intervenants et puis à tous ceux qui et à vous qui êtes venus et qui avez posé des questions. Voilà, bonne fin de soirée.